Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse, nous puissions ensemble penser très simplement ce matin à ce que nous avons besoin, et en particulier besoin de l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà qu'il est question dans ce passage de l'œuvre de l'Esprit Saint, puisque c'est par son esprit que nous sommes appelés à être puissamment fortifiés, par son esprit dans l'homme intérieur, et d'avoir Christ qui habite dans nos cœurs par la foi, et puis connaître cet amour jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Être dans la plénitude de Dieu, ben voilà finalement ce à quoi nous sommes appelés, être remplis totalement de Dieu, connaître cette plénitude. Et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit qui vient mettre en nous cette connaissance de Dieu et de Jésus et de son amour. Être dans la plénitude de Dieu. Cela, les apôtres l'ont connu, alors initialement, avec la visitation du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, ils ont été remplis d'une plénitude qui leur a permis d'annoncer la grâce de Dieu autour d'eux, et puis d'agir et d'accomplir tous les miracles de cette grâce de Dieu, hein, d'être dans la puissance de... comme par exemple, voilà celui qui est venu après, ou en même temps que les apôtres, enfin qui n'était même pas apôtre, hein, un homme comme Étienne, au chapitre 6, verset 8 du livre des Actes. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voilà donc, par la plénitude de Dieu, un homme, un disciple, qui accomplissait des miracles, qui manifestait la puissance de Dieu. Et sommes-nous appelés, nous-mêmes, à être remplis de puissance comme Étienne? Qui sait si le Seigneur ne veut pas nous accorder ces dons de grâce, ces dons de puissance? Mais justement, rempli de grâce et de puissance. La grâce vient avant la puissance. Et si la puissance n'est pas associée à la grâce, alors elle est inutile, elle est même dangereuse. Quelqu'un qui aurait une puissance sans qu'elle soit associée à la grâce de Dieu. En fait, ça s'appelle un magicien. Il y a des magiciens dans ce monde qui ont des puissances, qui manifestent des puissances, qui utilisent des puissances, mais qui ne sont pas celles de la grâce de Dieu. Alors, nous sommes, nous, parfois, à la recherche de la puissance de Dieu. Mais comment recevoir cette puissance? Eh bien, d'abord, en connaissant Christ, en connaissant son amour, en étant rempli de Christ lui-même, être dans la plénitude de Dieu, de l'Esprit Saint. Et alors là, le Seigneur va pouvoir agir selon sa volonté dans la multitude de ses grâces et de ses dons envers nous et déployer sa puissance à lui et non pas une puissance étrangère à sa grâce. Voilà ce dont nous avons besoin. Il ne faut bien sûr pas se tromper s'il est question de puissance et de plénitude d'esprit. Cela ne peut se faire que dans un homme qui reste, lui, un être par nature faible. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, nous pouvons lire de la part de l'apôtre Paul: nous portons ce trésor de la connaissance de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous savez que le magicien Simon faisait donc des miracles, des prodiges avant d'accepter la parole de l'évangile. Et les gens de la ville l'appelaient la puissance de Dieu. Et donc il s'enorgueillissait de cette puissance. Et lorsqu'il a vu les apôtres accomplir eux aussi les miracles et surtout permettre au Saint-Esprit de venir remplir les croyants lorsqu'ils leur ont imposé les mains, il a désiré cette puissance pour lui-même. Et il désirait donc devenir quelqu'un qui était, voilà, un homme qui manifeste la puissance et qui s'enorgueillissait de la puissance de Dieu. Et c'est là que l'apôtre Pierre l'a repris en lui disant « Retire-toi, tes pensées sont celles des hommes, elles sont corrompues, tu n'as pas de part dans cette affaire. » Parce qu'il désirait la puissance de Dieu, mais pour renforcer son ego, sa personnalité, devenir quelqu'un de très très important aux yeux des autres. Eh bien, l'apôtre Paul, lui, avait conscience et vivait les manifestations de la puissance de Dieu, mais restait un homme qui était conscient de sa nature faible, d'être un vase de terre. Il était dans une apparence modeste. Jamais il n'a pris l'attitude de quelqu'un qui pouvait, on peut dire, en imposer aux autres par sa personnalité. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui lui avait indiqué cela aussi en lui donnant une épreuve. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre ne désire pas être faible, il veut être dans la force de Dieu. Il veut connaître et manifester la puissance de Christ, la puissance de Dieu. Mais pour cela, il a dû apprendre quand même, à cause quand même de la grandeur de ce qu'il avait reçu comme révélation, il a dû accepter une infirmité dans la chair pour que ce soit vraiment la puissance de Dieu qui soit mis en avant et non pas sa propre puissance et donc sa propre gloire. Ce qui fait qu'il était pleinement entré dans cette dimension d'apparente faiblesse et il se plaisait dans les situations de faiblesse. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Donc, il se lançait volontiers dans des situations où il savait qu'humainement, il serait en difficulté pour que la grâce qui l'accompagnait, ça il en était convaincu, il le savait qu'il avait la grâce et la puissance de Dieu qui agissait dans sa vie, pour que cette grâce puisse se manifester. Alors donc, les situations de faiblesse extérieure, hein, puisqu'il était persécuté, outragé, toutes des choses comme cela. Situations de faiblesse extérieure aussi, à travers son infirmité dans la chair. Mais pas que cela encore. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5... Parce qu'on aurait pu penser que, voilà, même dans la faiblesse, une fois que l'apôtre se mettait à parler, à faire un raisonnement sur l'œuvre de Dieu, eh bien à ce moment-là, il allait devenir quelqu'un de spécial en parole et qu'il allait donc emporter l'adhésion à travers un beau discours, à travers une pensée bien construite, etc. Eh bien non. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Démonstration d'esprit et de puissance, qui est tout simplement la démonstration de l'Évangile. La prédication de la croix de Christ. J'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car c'est là qu'est la véritable puissance de Dieu. Et Paul donc pouvait même se retrouver dans une situation de faiblesse intérieure, un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il ne désirait pas, il se sentait, on peut dire... Je ne sais pas comment il pouvait vivre ces moments où, manifestement, il tremblait de ne pas apporter Dieu lui-même, de ne pas apporter l'Évangile lui-même, de ne pas apporter Christ lui-même. Et où, intérieurement, il devait peut-être, je ne sais pas moi, bafouiller, mais quand il parlait, il parlait de Jésus, il parlait de la croix de Jésus. Il parlait tout simplement, dans un langage très simple, de ce que Jésus-Christ avait fait pour les pécheurs en donnant sa vie, en souffrant sur la croix, en étant meurtri pour leurs offenses, en portant leurs fautes devant sur cette croix d'infamie pour expier le péché et laisser la grâce et la puissance de Dieu se manifester à travers sa résurrection. C'est là que, donc, la véritable force est à l'œuvre, la force, la conviction par l'œuvre du Saint-Esprit. Non pas par une puissance humaine, non pas par un raisonnement pertinent, etc., mais uniquement par la prédication de Jésus-Christ. Et là, nous sommes appelés, donc, avec Timothée, à qui Paul s'adresse, 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 14. à être dans cette véritable puissance de Dieu. Nous aussi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc ici, Timothée est exhorté à annoncer lui aussi l'Évangile, le bon dépôt, les saines paroles de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, Timothée est exhorté à être renouvelé dans cette puissance-là, cette capacité de dire l'Évangile et d'en supporter à certains moments les conséquences difficiles, hein, puisque souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffre pour l'Évangile. Donc, il ne s'agit pas de ne pas avoir de force, mais de laisser la puissance de l'Évangile puisse faire son œuvre dans les vies. Hein? Concernant, on peut dire, la puissance de Dieu, nous sommes des vases de terre, mais concernant la vérité de Dieu, là nous sommes appelés à être des vases d'honneur qui glorifient le Seigneur. 2 Timothée 2, versets 14 à 21. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Timothée et nous-mêmes sommes exhortés à avoir une foi saine concernant la vérité qui a été prêchée et de ne pas nous détourner de cet évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour notre justification, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, et ne pas y ajouter toutes sortes de pseudo-révélations ou de pseudo-connaissances qui viendraient donc amoindrir ou carrément anéantir ce message de Jésus-Christ crucifié. Notre foi doit être saine, rester sur le fondement et amener une vie sainte. C'est cela, en fait, voilà, l'évangile. C'est le pardon des péchés par l'œuvre de la croix et une vie sainte par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, par la purification qui est opérée en nous et donc la force du Saint-Esprit. Donc maintenant, en repensant à demander l'onction, la puissance de Dieu, eh bien, faisons-le, oui. Demandons à Dieu de déverser ces dons, de déverser ces grâces, de nous remplir de puissance au nom de Jésus, mais toujours en passant par la croix, en recevant ce qui vient de la croix de Jésus-Christ. Une action puissante sans les souffrances et la mort de Christ, cela n'existe pas. C'est, comme j'ai dit au début, de la magie. Et nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas de la magie. Nous voulons la manifestation de la grâce de Dieu et les dons du Saint-Esprit qui découlent de l'œuvre de la croix, de ce que Dieu veut faire dans son amour, dans nos vies, en nous délivrant de nos fautes et aussi de leurs conséquences, puisque Christ a non seulement porté nos péchés lorsqu'il était sur le bois, mais il est aussi écrit qu'il a pris nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a aussi une œuvre qui est dans nos vies, dans nos corps, dans tous les aspects de notre vie, pas seulement dans notre esprit, mais qui découle de la grâce de Dieu, qui découle du fait que Christ a pris la condamnation sur lui. L'œuvre de la croix, c'est ce dont nous avons besoin. La puissance de Dieu, là où Dieu s'est montré faible et souffrant, à Jésus recevant le châtiment de nos fautes. Il y a cette instruction aussi dans la seconde aux Corinthiens, au chapitre 13, c'est vers la fin de l'épître. Justement, Paul était en butte à toutes sortes de critiques, et au verset 3, il peut dire: puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Les Corinthiens étaient dans cette recherche de la puissance et il y avait beaucoup de dons qui se manifestaient au milieu d'eux. Et de ce fait, eh bien, certains en venaient à dénigrer et déconsidérer l'apôtre qui, lui, paraissait toujours dans la faiblesse. Alors, et qui était même prisonnier pour Christ. Alors, il dit, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu qui agit pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous, éprouvez-vous vous-même. Alors, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il a accepté de paraître dans la faiblesse. Mais à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu a pu être manifestée. Il y a dans notre société, vraiment, on peut dire, un complexe de puissance, de réussite. C'est celui qui domine sur les autres, qui est honoré. Hein. Et même, justement, dans notre société, certains hommes réfléchissent et peuvent comprendre que ce n'est pas toujours le fort, celui qui est dans la puissance, qui est le plus qui a la meilleure réussite en réalité. Et j'ai lu récemment, ça fait déjà 4 ou 5 ans, il y a un frère qui m'avait prêté un livre dont je recommanderais vraiment la lecture, qui est l'éloge de la faiblesse, justement, l'éloge de la faiblesse, et qui montre comment, dans la nature même, chez les animaux, les végétaux, etc., en fait, le plus fort, ce n'est pas celui qu'on pense souvent, et qu'il y a des situations où vraiment c'est le plus faible qui, parce qu'il a développé des stratégies de collaboration, etc., finalement, l'emporte sur le plus fort. Et que donc, il ne faut pas chercher nécessairement la puissance, la domination, mais il faut aussi accepter de passer par des situations de faiblesse, et en particulier, donc, d'être l'échange et la collaboration. Si je me souviens bien, il prenait aussi l'exemple, par exemple, des fourmis. Les fourmis, chaque fourmi en elle-même, elle est tout à fait faible. Mais les choses extraordinaires qu'elles font ensemble, et finalement, tout leur travail, eh bien, se fait pour aboutir à un vrai résultat qu'elle n'aurait aucune possibilité de faire si elle travaillait toute seule, quoi. C'est une vie communautaire. Les abeilles, c'est la même chose. C'est la force de la communauté qui fait la réussite. Et ainsi de suite. Enfin, bien d'autres exemples. Et nous aussi, donc, nous sommes appelés à connaître une forme de faiblesse, d'accepter pleinement une forme de faiblesse pour laisser l'œuvre de Dieu se faire, la grâce de Dieu agir et la puissance de Dieu à ce moment-là se manifester. Il y a Jésus, bien sûr, crucifié et ressuscité, c'est le grand exemple. Mais ensuite, donc, l'apôtre Paul démontre dans sa vie qu'il y avait faiblesse et puissance à la fois. L'Église était persécutée, mais l'Église continuait à se développer et à opérer les œuvres de la grâce de Dieu et à développer dans le monde toute une multitude de manifestations de la grâce de Dieu. L'Église de Jésus-Christ a apporté les œuvres de bonté, de miséricorde, de sagesse, de guérison dans le monde entier. Tout cela porté par la grâce de Dieu. Et à chaque fois que l'Église est véritablement ce qu'elle doit être dans la foi en Jésus-Christ, eh bien, il y a des œuvres magnifiques qui se font par la puissance de Dieu. Qu'elle soit ou non honorée ou reconnue dans le monde, l'Église, peu importe, elle agit à ce moment-là sous l'inspiration du Saint-Esprit et elle permet à Dieu de manifester sa puissance. Nous devons seulement accepter que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies, non seulement pour produire des choses exceptionnelles, mais d'abord et ou parallèlement, pour produire la transformation de nos êtres. Les personnes qui se laissent transformer par l'œuvre de la croix, à ce moment-là, eh bien, elles ne sont plus dans les faiblesses de la chair, les faiblesses coupables, mais elles connaissent l'œuvre de la puissance de Dieu. Elles vont vraiment nous tourner vers Dieu, et être dans cet esprit, donc de recevoir les manifestations de sa puissance dans nos vies et de alors renouveler aussi les dons par lesquels eh bien, nous pouvons voir aussi des frères et sœurs qui sont attaqués par l'adversaire, qui sont prisonniers de mauvaises habitudes, qui sont malades, être délivrés, être guéris par la puissance de Dieu. C'est parce que le Seigneur aura accès vraiment à leur cœur à travers leur propre consécration, mais aussi la consécration de l'ensemble de ses enfants. Amen.